This one shouldn't take long. Of course, if it had a cover, I might not be bothered. Can't see what's under there. And then they'd have chained the back wheel. It would have taken me much longer, especially if the chain's off the ground. Makes it harder to cut. This one doesn't even have a lock on the front. So, in the time I've been talking to you, I've nicked it.
Over 9,000 scooters and motorbikes were stolen in London last year. Lock your bike, chain the rear wheel, and cover it to make it harder to steal. Lock, chain, cover. The Met Police.
Vous écoutez
RMC.
Et oui, elles sont là, à dire que jeudi dernier, ils étaient tous là avec nous en studio.
Ouais, les coquines.
J'ai vu la photo.
T'as vu la photo ?
Magnifique.
Magnifique. Hein.
Magnifique.
Fred Hermel.
Il est très parisien en ce moment. Hein. On voit qu'il y a.
Très costard aussi.
Un truc qui se trame.
Mais Fred toujours très beau, Fred. Salut, Fredo.
D'ailleurs, j'ai eu des remarques, Daniel, sur ton pantalon est un peu court et tes baskets. Hola, chicos.
Salut, Fred.
Quel genre d'or.
Ah, Damien, ça va, copain.
Très bien.
Quel genre d'or, Fred.
Ben non, il y a des gens qui s'étonnaient parce que tu es un garçon italien, classe, etc. Et ben il y a
On ne lance pas sur la mode.
Sur Twitter, on a dit que voilà que tu avais
effectivement les baskets que j'avais ne sont pas données à tout le monde.
C'est ça.
Tout le monde ne peut pas forcément connaître ce genre-là.
C'est le jean un peu trop court, ça faisait un peu, je sais pas.
Mais pas chaud moule.
Je fais que transmettre des messages.
C'était totalement estival. Alors c'est vrai que nous sommes dans l'automne depuis. Non, on était encore en été d'ailleurs à ce moment-là.
Très bien.
Ah ben ça passe alors. Bon ben ça va.
Là aujourd'hui. Je ne le referai pas.
Un autre Italien D'accord. qui a beaucoup de classe, c'est Simone Rovera. Simone, bonsoir.
Simone a toujours du mal avec les boutons.
Il a de la classe, mais il
Simone,
pas.
Simone est là, mais il faut monter un peu son niveau. C'est là, c'est dans notre régie que ça se joue. Simone, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Ciao.
Finalement. Ah, qu'est-ce que c'est beau de retrouver. Mais vous me manquez déjà.
Ah ouais, on était bien tous ensemble
on
là.
Était ensemble, chaud, c'était magnifique.
Le seul qui a mis une cravate en honneur à l'after foot, c'était Julien Laurence. Et il est là avec nous. Salut Julien.
Salut à tous.
Toi aussi, j'ai eu des remarques sur ton physique. Salut.
C'est Julien. Vrai, un physique de radio, comme tu l'avais si bien souligné.
Non, finalement, t'es pas mal. Je reconnais que t'es pas mal comme garçon. Parce que c'est la première fois que je rencontrais Julien Laurence, en vrai de vrai. Hein.
Ah oui?
C'est vrai?
Ça t'a fait un choc?
Bah ouais, au bout je suis pas reconnu. Il dit salut Fred, ça va? Je fais salut! Et après, je me dis, mais oui, c'est lui! Enfin, non, il est pas mal, c'est un beau garçon.
Comment faire?
Bon.
Et puis, lui est venu avec son plus beau t-shirt de l'Union de Berlin de la saison 84-85. C'est Polo Breitner, bien sûr. Salut, Polo!
Bonsoir, mon cher Gilbert. Bonsoir, tout le monde.
Salut, Polo.
Bonsoir, Polo.
Autant dire que ses considérations sur la mode l'ont profondément emmerdé, Polo.
Oui, c'est peu.
Le fais pas chier avec ce genre de détails, merci.
Alors, sauf qu'il
était un maillot unique.
Polo, il est Union de Berlin?
Polo, victoire de l'Union Berlin au Hertha Berlin.
Alors, Polo, j'ai regardé Union Berlin Dortmund, hein, c'était ça, il y a deux semaines, un truc comme ça. Hein. Donc,
je l'ai vu ce match.
Je me suis délecté, effectivement, de l'ambiance, de l'atmosphère. Et j'ai halluciné. J'ai halluciné.
Ben, et encore, c'est un petit stade. Hein.
Ce peuple, ouais, mais déjà.
C'est le derby, d'ailleurs.
Déjà, le stade, il est génial.
Enfin, oui, je ne sais même plus. Attends, si, novembre.
Hertha,
en novembre. Ah, dis donc, tu sais que ça m'a donné envie d'aller voir un match de l'Union de Berlin.
Mais je crois que
c'est une semaine avant la chute du mur, donc ça va être compliqué pour trouver les places. Hein.
Ah, d'accord. Non, mais
lui,
il est tombé.
Fais-toi un petit week-end à Berlin. Et
oui, parce que j'ai cru la chute du mur. Je dis, mais dans quel mur ils sont retombés, là? L'anniversaire, d'accord.
Avant les 30 ans. Maintenant, on fait tomber suite Trump.
Mais c'est vrai que c'était plus intéressant, l'ambiance, que le match qu'on a eu ce soir entre Wolfsburg et Hoffenheim. 18 000 spectateurs seulement, un but partout. Il n'y avait que 10 000 spectateurs à la Volkswagen Arena jeudi en Europa League. Merci, les clubs d'entreprise.
Sacré
là, je te trouve quand même un petit peu dur parce que.
Non, mais en Allemagne, on bosse. À Volkswagen, les mecs, demain matin à 7h, ils sont au taf. Donc ils vont pas.
À 5h, s'il vous plaît.
Non, mais je veux dire, c'est pas. Enfin, les clubs qui appartiennent aux entreprises, c'est pas un truc de la mondialisation actuelle. C'est vraiment historique. Il y a tellement de clubs qui sont des entreprises. Chaud. Donc, oui, c'est pour ça.
Peugeot.
Même s'ils ont un peu oublié leurs racines. Mais sincèrement, enfin. Là, franchement, Polo, je te trouve injuste parce que les grandes entreprises ont donné des grands clubs. Donc, c'est pas. Je comprends que tu puisses.
À l'époque, c'était une forme de paternalisme. C'était pour que les gens restent, tu vois, et leur.
Oui, oui, mais enfin, mais ça fait partie de l'histoire. Il ne faut pas cracher l'histoire. Il ne faut pas cracher sur l'histoire. C'est comme ça. Voilà, enfin, je veux dire.
Et sinon, tu connais tous les clubs en Allemagne, je ne me rends pas compte, là.
Mais je te dis, on peut critiquer, je suis le premier à critiquer la mondialisation.
Moi, je te dis juste que les clubs d'entreprise en Allemagne, il n'y a pas de public au stade, c'est tout.
Le Bayer Leverkusen, il y a, non?
Bah, il y a 20 000 spectateurs, qu'est-ce que tu veux faire avec ça?
Tu peux finir la phrase sur Fred Hermel avec un fait pas chier, Polo, parce que j'ai l'impression qu'il va t'en faire déçu. Si tu pouvais
décrire rapidement la conversation. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Le Bayer Werdingen à l'époque, ça marchait bien.
Werdingen.
Mais comment ça, Polo, pardon, non, c'est pas pour t'emmerder, mais tu dis les clubs entreprises, il
n'y
a pas de monde au stade, mais quoi, Leverkusen, à un moment, il y avait du monde qui allait.
Mais il y a 22 000 spectateurs de moyenne, c'est les stades de 30 000, c'est tout pourri.
D'accord.
C'est juste les employés, en fait, qui vont. Mais lorsqu'il y a les débats sur les traditions de Verein, c'est-à-dire les clubs historiques, qui sont les clubs associatifs, c'est pour ça qu'on n'aime pas l'arrivée d'Offenheim, qu'on n'aime pas l'arrivée de Rasenball, enfin, de Red Bull, évidemment, à Leipzig, parce qu'il n'y a pas grand monde, en fait.
Même à Leipzig?
À Leipzig, aujourd'hui, il y arrive. Il y a 40 000 spectateurs de moyenne environ.
Est-ce que c'est moins qu'avant
par rapport aux deux dernières années? Et puis, Leipzig, ils viennent juste d'arriver. Enfin, le Red Bull, ils viennent juste d'arriver. Donc, tirer des conclusions tout de suite, c'est un peu compliqué. Mais Offenheim, c'est juste le gars qui s'est fait plaisir. Il y a 22 000 spectateurs de moyenne. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ces nouveaux clubs qui sont arrivés, en fait, font baisser la moyenne générale. Donc, ils ont plus de moyens.
Oui, mais
donc,
pourquoi
snobé, évidemment, ils restent en Bundesliga, mais en fait, ils font baisser la moyenne générale aussi. Des supporters.
Ils n'ont pas le droit au bonheur, ces 20 000?
Font ce qu'ils veulent.
Ouais, rappelez-nous l'influence de Lokomotiv Leipzig-Bordeaux en Coupe d'Europe.
Alors attends, parce que là j'ai eu des remarques par rapport à ça.
Ouais.
Donc j'ai le chiffre officiel qui est de 73 000 spectateurs en 1987,
ouais,
qui sont en fait le nombre de tickets vendus. Mais en fait ils avaient ouvert les portes et ils étaient 103 000.
C'était les uns sur les autres.
Attention, nous avons un Polo en forme ce soir. Alors,
et le stade faisait 110 000 à l'époque.
Les gars, petit tour d'Europe d'abord sur l'info principale du week-end chez vous en Angleterre. C'est quoi, Julien?
C'est le carton de Manchester City à domicile contre Watford samedi après-midi, 8-0, avec un nouveau chapitre dans leur très joli déjà livre des records du football anglais pour City. Ils ont donc la première équipe à marquer 5 buts en l'espace de 18 minutes, ce qui n'était jamais arrivé avant, puisqu'ils menaient donc 5-0 à domicile après 18 minutes de jeu samedi après-midi contre Watford.
L'info principale en Italie, c'est quoi, Simone?
J'aimerais dire le premier but de Franck Ribéry, mais bon, on doit aller sur le haut de tableau. Donc, les derbies remportés par l'Inter, qui reste invaincu, 4 victoires sur 4 matchs, première au classement.
De plus en plus de gens en Italie pensent très sérieusement que l'Inter va gagner le titre cette année.
Bah, si l'Inter n'avait pas la Coupe d'Europe, je dirais que c'était tête à tête avec la Juve. Faudra voir qu'est-ce qui se passe sur ces prochains 5 matchs.
Mais je me demande même si l'Europe, ils vont pas mettre ça un peu de côté.
Et voilà, éventuellement, les 2-4 matchs d'Europa League, si l'Inter va en sortir.
Le dernier titre de l'Inter, ça date de quand?
Dernier titre soulevé, 2011 Coupe d'Italie et 2010 championnat.
Bon, ouais.
L'année du triplé de Mourinho.
10 ans plus tard.
L'année du triplé de Mourinho.
Ce serait bien.
Je crois pas un triplé cette année quand même.
Avec Samuel Eto'o.
L'info principale en Espagne, c'est quoi, Fredo?
Bah, bien entendu, cette défaite surprise du Barça à Grenade chez un promu. Mais au-delà du 2-0 totalement justifié, c'est l'état dans lequel se trouve cette équipe et les conséquences qu'il pourrait y avoir très rapidement. C'est pas encore des critiques féroces contre Valverde, mais on sent que la patience de beaucoup de gens commence à arriver au bout.
Que pourrait-il se passer?
Déjà, que Messi va être titulaire a priori demain contre Villarreal. Et ça veut dire qu'on force Messi qui n'a que 7 entraînements dans les jambes depuis le mois de mai.
Et donc ce soir était à l'Opéra à Milan.
Oui, parce qu'il est the best. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est inquiétant de devoir forcer Messi, parce que Messi n'est pas en condition physique aujourd'hui d'être titulaire. On l'a vu debout de match, ça a été très très compliqué pour lui. Mais voilà, il faut sauver Valverde, il faut sauver le Barça qui a déjà perdu 8 points sur 15 possibles depuis le début de la saison. Et forcer Messi, c'est pas forcément une très bonne idée, surtout à son âge. C'est pas un
mais
vieux,
de quoi, dans l'ordre, mais... de quoi on a parlé de plus donc autour de la défaite du Barça? De Valverde qui ne trouve plus ou ne trouverait plus les solutions, de Messi qui manque et dont on va anticiper le retour, ou de Griezmann qui a du mal à s'intégrer à l'équipe alors que c'est le gros transfert de l'été.
Il y a un peu tout. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Griezmann parce que il était totalement perdu sur la pelouse. C'était impressionnant, quoi. Moi, ça m'a fait mal. Vous savez très bien la profonde tendresse que j'ai et l'admiration que j'ai pour ce joueur. Mais c'était terrible. Voir Griezmann, à un moment, rater un contrôle tout simple et laisser partir la balle en 6 mètres, enfin, en sortie de but, c'était quelque chose de terrible. Donc, moi, ce qui m'a...
Mais c'est le positionnement qui lui pose problème, le fait d'être une sorte d'ailier, quoi.
Bah, il était. Attends, surtout qu'il a commencé à gauche, il a fini à droite, quoi. On sait que Griezmann, son poste préféré, c'est, comme diraient les Argentins, en 9,5, c'est-à-dire derrière un attaquant.
Enfin, disons qu'il a, pu jouer à ce poste-là, mais c'est,
bah, c'est
plus
la Sociedad.
C'est plus la même histoire. Mais c'est non seulement plus la même histoire pour des histoires, entre guillemets, d'âge et d'évolution, parce que lui, il doit être au cœur du jeu.
Donc, bien sûr. Il est magnifique, quoi, comme
il est plus. Ouais, là il est plus. Donc moi, Griezmann, tu le connais effectivement. Il va le faire. Il va tout faire pour faire ce qu'il faut. Oui. Mais je pense que là, c'est la clé du problème. T'as raison. Enfin, c'est, je veux dire que le problème de Valverde, ceci, ça, c'est comment t'arrives à déjà, il y a ce lien entre Suarez et Messi qui est très très fort. Donc t'arrives là-dedans. Il faut arriver à s'intégrer. Et après, tactiquement, il faut arriver à trouver la place.
Score final en Ligue 2, Xavier Grimaud.
Ouais, c'est terminé. La victoire de Lorient, 2-1. Wissa et Hamel pour les buteurs bretons. Sané pour le buteur de Rodez. Donc Lorient seul en tête de la Ligue 2 avec 3 points d'avance sur le Havre.
Très bien. Fred, tu peux conclure.
Ouais, par rapport à ça, moi je me souviens, parce que ça fait longtemps que je suis là, du 4 Thierry Henry au Barça. Et ben, un jour, il faudra qu'on réfléchisse. De voir comment Thierry Henry, et moi il me l'avait dit un jour en privé, au sortir d'un match, c'était au Calderon à l'époque, il me dit, tu sais, je fais beaucoup de sacrifices en jouant à gauche comme ça. C'est-à-dire que pour pouvoir jouer au Barça, il avait été vraiment mis sur un côté, quoi. Et il avait dû, il le vivait aussi comme un sacrifice. Et je me demande si quelque part, Griezmann n'est pas dans le même
heureusement
situation.
Damien Pérenel l'a remis à la bonne place à New York.
Fred, il le vivait comme un sacrifice, mais il savait que ce sacrifice pouvait lui permettre de gagner la Champions League, donc il acceptait à l'époque.
Voilà, ben, c'est très intéressant ton témoignage, mais tu es d'accord avec moi là-dessus, parce qu'on avait discuté, que moi il m'avait dit un jour, tu sais, c'est pas si facile pour moi de jouer là où je joue.
C'est l'info principale,
mais voilà.
On enchaîne.
Simplement, Thierry Henry avait appris le catalan exprès pour vraiment s'intégrer et s'imprégner du Barça.
Et je termine un mot. Pourquoi Griezmann il part au Barça pour gagner la Ligue des Champions? C'est pareil.
L'info principale en Allemagne, Polo. Bah
écoute, il y a 4 thématiques en fait, donc c'est un peu compliqué. Il faut faire un choix. Celle que vous voulez
la
entendre.
La principale.
La première, c'est la performance de Leipzig au Werder, qui est malheureusement à plus de 10 blessés, donc c'est un peu compliqué. Et donc la question qu'on se pose en Allemagne, c'est à savoir est-ce que Leipzig est aujourd'hui assez mûr pour remporter la Bundesliga. Le deuxième, c'est évidemment la performance du Bayern contre Cologne 4-0. Je rappelle quand même que Cologne, l'année dernière, c'était 115 millions d'euros en seconde division de chiffre d'affaires, sans entreprise. Donc c'est important, la prestation notamment et la relation Coutinho-Lewandowski. La troisième qui me semble important,
c'est quand même la principale. T'es en train de me forcer le
problème,
l'imagino, là.
Il y a Ter Stegen Neuer aussi, si tu veux.
Donc, attends, on va y revenir. Mais la numéro 1 pour toi, c'est laquelle?
Bon, moi, c'est se poser la question de savoir si Leipzig est assez mûr pour remporter le titre au nez et à la barbe du Bayern Munich. Et là, la prestation a été impressionnante contre le Werder, même si le Werder, encore une fois, a beaucoup de blessés. Ce qui est impressionnant depuis que Nagelsmann est arrivé, c'est qu'il a augmenté encore le niveau par rapport à Ralf Rangnick. Mmh. Il y a même des joueurs qui étaient considérés. Alors, c'est un mot très important en Allemagne, qu'on appelle des Mitlaufers, c'est des suiveurs, c'est des mecs qu'on a condamnés, par exemple, pendant la période post-nazi. Donc, c'est ce qu'on appelle des suiveurs. C'est des mecs qui deviennent des leaders, notamment Sabitzer, l'international autrichien. Vous avez Forsberg, vous avez Werner, des joueurs comme ça qui prennent vraiment leurs responsabilités aujourd'hui. Et surtout, il a différents schémas de jeu qui permettent de s'adapter avec un vrai banc et surtout des jeunes qui progressent à vitesse grand V. Je rappelle aussi Upamecano, et pour la première fois titulaire alors qu'il sortait de blessure. Donc on a presque un effectif complet à Leipzig et c'est assez intéressant à ce niveau-là. Ils sont toujours en tête de Bundesliga.
Ça va être passionnant cette année, la Bundesliga.
Justement, le doute que je pourrais mettre sur cette équipe, c'est-à-dire qu'elle a vraiment, elle a eu un très gros match à jouer depuis le début de cette saison, c'est contre le Bayern.
Exactement.
Et tactiquement, et physiquement, ils se sont fait manger par le Bayern en première mi-temps,
tout du moins.
Et ensuite, Nagelsmann a été intelligent, justement, en modifiant son schéma tactique, en repassant à 4 derrière, et ce qui leur permettait justement de nouveau d'intégrer leur pressing tout terrain et très haut avec un jeu vertical. Mais voilà, c'est peut-être moi sur les très grands rendez-vous, je ne sais pas si cette équipe est justement assez mûre, parce que c'est une équipe qui est très jeune et qui peut. Le Bayern a peut-être plus de ressort à ce niveau-là.
Oui, mais ils n'ont pas un banc.
Ils jouent beaucoup, il s'est imposé.
Il y a très peu de joueurs, en fait,
Vas-y,
et Goretzka sont blessés. Kovac a fait un mini turnover pour la victoire contre Cologne. Et donc, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Moi, je suis de ton avis. Moi, ce qu'on me demande, c'est quelle est l'info en Allemagne. L'info qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Leipzig est assez mûr
et tu as parfaitement
pour remporter la Bundesliga.
Dans quelques instants, les de retour, le reste de l'actu, bien sûr, on ne ratera absolument rien. Puis je rappelle que vous pouvez toujours gagner le jeu FIFA 20 en exclusivité dans l'after. Je le montre pour PS4 faut le préciser. Voilà, vous envoyez FIFA par SMS au 732-16. Tout de suite, FIFA par SMS au 732-16. Bonne chance, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
22h47, les drôles de l'âme sont là. Florent Gautreau également, Damien Périnel, Daniel Riolo, bien sûr. Toujours beaucoup de monde pour poser des questions aux drôles de l'âme. Tiens, j'ai par exemple Abramovic qui lui dit, c'est pas une question. Il dit, moi je bosse pour Volkswagen, je suis magasinier en France, donc évidemment, faut qu'ils bossent les Allemands, parce qu'il faut qu'ils nous fournissent les pièces si on veut réparer leur bagnole.
c'est bon.
Nous dit Abramovic. Fred, une petite question pour toi de Seb, qui nous dit, qu'as-tu pensé de la prestation d'Ocampos lors du match Séville-Real d'hier soir?
Ben, c'était le meilleur de Séville, tout simplement. Vraiment, vraiment. L'ancien Marseillais a été.
Tu vas faire mal au cœur à certains Marseillais.
Ben oui, non, mais c'est vrai que dans un. En fait, le Real était très, très bien installé tactiquement. Il y a eu quasiment. Ben, il y a eu qu'un tir cadré de cette équipe de Séville. Et c'est vrai qu'Ocampos a été celui qui a le plus mis en danger la bonne organisation madrilène. Donc, de toute façon, vous savez, il faut pas être un génie du football pour savoir que quand Monchi achète un joueur, en général, c'est bien parti pour lui. C'est un bon signe. Monchi, le fameux directeur sportif Simone.
Il a le droit de se tromper aussi.
Oui, il s'est trompé aussi. À la Roma, c'est pas très bien basé. Et Fred,
non, mais en tout cas pour le Séville en général, ça marche.
Bon, ça arrive.
Simone, oui.
Non, je disais qu'à la Roma, on parle de Monchi comme un arnaque et personne ne le regrette. Mais c'était pas les bons clubs pour lui, sûrement. Il avait toutes les responsabilités, ouais, tous les pouvoirs. Il a fait des choses qui allaient au-delà, peut-être, de ce qu'étaient les moments de la Roma. Il a cherché des jeunes, il a cherché trop loin. Il a pris des flops incroyables, comme Pastore et Chic, mais bon.
Fred.
Oui.
J'avais une question.
Le mercato qu'il a raté, c'est la Roma. Ça va pas faire plaisir aux supporters.
Juste sur le Real et Zidane, puisqu'on est, on est quand même sorti nous d'un match à l'issue duquel on nous disait que Zidane en gros était menacé, pour faire simple, je résume.
Enfin, mais je sais pas qui disait ça, mais pas ceux qui connaissent.
Non, mais en gros les gens le pensaient. Est-ce que il a changé? Qu'est-ce qui a changé en gros? Ou est-ce qu'il a changé vraiment des choses sur ce match?
Non, le truc c'était pour être tout à fait précis, c'est pas qu'il était menacé, c'est que il fallait prendre conscience que peu importe son nom, qui il est et ce qu'il a fait, au Real, la critique est toujours très virulente.
Ça, on est d'accord.
On ne fait de cadeau à personne. Oui. Et qu'en plus.
Il n'était pas protégé.
La relation. Voilà, il n'était pas protégé. Que la relation qui était effectivement forte et qu'on croyait un peu hors du commun entre Pérez et Zidane s'est refroidie. Et que Pérez est un homme d'affaires, un grand président pour le Real, et qu'il n'est pas le bouclier de Zidane, et que si il fallait un jour, demain, après-demain, dans un an, dans six mois, prendre une décision, il le ferait comme un patron et pas comme cette espèce de père spirituel qu'on a voulu. Mais non, mais c'était ça la précision. Ouais. Ça voulait pas dire il allait. Maintenant, s'ils avaient perdu à Séville, peut-être il aurait pas été viré là. Mais très franchement, ça aurait commencé un petit peu.
Menacé, ça veut pas dire qu'il peut se faire virer forcément.
Non, mais voilà, c'est peut-être des mecs menacés qui restent six mois en place.
Moi, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de délire. Il y a eu beaucoup de délire dans la presse en Espagne, mais à aucun moment la question de se séparer de Zidane n'est arrivée près du à une neurone d'un des dirigeants du Real. C'était pas du tout le cas.
Non, mais moi,
ta question est intéressante, j'y réponds. Qui a changé? C'est exactement le même joueur, à part Ramos, qui a remplacé, parce qu'il était suspendu à Paris.
Mais Ramos, ça compte, hein. C'est énorme,
oui,
hein, Ramos. Hein.
Oui. Mais moi, j'étais persuadé que Zidane allait faire ça, parce que je commence à le connaître. En gros, d'un côté, tu as le bon papa Zidane qui dit, vous avez fait des bêtises vous n'avez pas bossé, vous avez fait des bêtises à Paris, je vous laisse une chance de corriger ça et de redorer votre blason. Et en même temps, vous avez fait des bêtises à Paris, un peu le père fouettard, à vous de les corriger aussi. C'est-à-dire que, il y avait un peu les deux côtés, la carotte et le bâton. Et c'est vrai que la différence, c'est l'attitude des joueurs. Parce que la tactique était la même. Le système était le même en 4-3-3. Les joueurs étaient les mêmes. Mais l'attitude et l'envie et le respect de la tactique étaient la même. Vous avez bien vu à Paris qu'ils se sont fait bouffer par l'énergie des Parisiens. Et ça n'a pas été du tout le cas à Séville, où l'intensité, ce sont les Madrilènes qui l'ont mise. Donc la différence, elle est là. Et puisqu'on parle de ce sujet-là, moi je pense sincèrement que le gros test, mais vraiment le test important de ce match, ce n'est pas le résultat, mais c'est l'attitude des joueurs qui ont démontré qu'ils étaient avec Zidane. Parce que parfois, tu peux gagner à Séville en faisant un très mauvais match et en donnant l'impression que tu n'es pas avec ton entraîneur. Ça arrive, des victoires comme ça. Mais là, hier soir, on a vu qu'ils étaient totalement avec Zidane et ils sont allés la chercher avec les dents, cette victoire.
Une question maintenant sur Direct Studio de Julien pour un autre Julien, Julien Laurence. Il lui dit, Julien dit, moi, je pense que l'info du week-end en Angleterre, c'est une fois de plus Manchester United qui touche le fond. Jusqu'où vont-ils creuser?
C'est vrai, on aurait pu aussi sortir celle-là comme info. J'étais au match hier pour RMC Sport 1 à West Ham. En anglais ou en français, j'ai du mal à trouver un mot pour qualifier à quel point Manchester United a été pitoyable, a été moins les que Shirley. Rien dans cette rencontre.
Comment tu dis en allemand ?
C'était
les Shirley.
Les Shirley, si tu veux, Polo, si tu veux. Mais sincèrement, c'était horrible. C'était horrible. C'est-à-dire qu'on s'est regardé avec les autres, les gens dans la tribune de presse autour de moi, en première période où il n'y avait, c'était le néant absolu de la part de Manchester United, où on s'est regardé en disant mais c'est pas possible. Il y a un moment où c'est un mauvais rêve et tout le monde va se réveiller en se disant bah non, c'est l'un des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand pour certains, l'un des plus riches du monde, encore une fois pas très loin d'être le plus riche du monde aussi. C'est impossible que Manchester United, 6 ans après le départ de Sir Alex Ferguson, soit tombé si bas, en soit arrivé à ce degré-là de néant et de chaos, de rien du tout. Voilà, il y avait rien du tout dans ce match-là. Les 11 joueurs sur le terrain qui ont terminé la rencontre, c'est sûrement la pire équipe de ces, je sais pas moi, des 25 dernières années de Manchester United sur un terrain. Et t'as Ole Gunnar Solskjaer sur le banc. Il y a un moment où t'arrives à un point où tu dis Solskjaer, c'est peut-être pas un bon entraîneur. Je sais pas. Je pense que personne ne sait vraiment s'il est bon, s'il est pas bon, si c'est une arnaque ou pas une arnaque. Mais il y a un moment où, avec ces joueurs-là, il n'y a pas grand monde qui pourrait faire de cette équipe-là une bonne équipe, qui pourrait la faire bien jouer, qui pourrait la faire se créer des occasions. Il n'y a que Aston Villa, je crois, et Sheffield United qui se sont créés ou qui ont moins tiré au but que Manchester United cette saison. C'est-à-dire que offensivement ils ne créent rien et défensivement ils prennent des buts et à chaque match quasiment, puisque maintenant à l'extérieur je crois que ça fait 11 matchs d'affilée où ils ont pris au moins un but, ce qui ne leur était plus arrivé depuis 2002.
Mais Julien,
donc
jusqu'à
même
quand,
au niveau des stats,
jusqu'à quand l'immunité va toucher Ed Woodward, parce que le dénominateur commun de tout ça depuis très longtemps, c'est lui, ou en fait. Alors certes, les propriétaires sont contents, ils gagnent de l'argent.
Bah ouais, mais
c'est pour eux incroyable. Il dépense quand même de l'argent, de la thune. Même quand on a beaucoup. Mmh. Et il en claque beaucoup, c'est Ed Woodward.
Ouais, mais il est obligé aussi, parce qu'à un moment, il faut quand même qu'il recrute des joueurs et les joueurs qu'ils aimeraient recruter ou qu'ils recrutent ou qu'ils essayent de recruter, ça coûte beaucoup d'argent. Mais, et ta question, elle est parfaite parce que c'était mon point, le point sur lequel j'allais venir. Demain matin, Manchester United va annoncer ses revenus pour l'année. C'était demain, c'est la date était demain, on le savait depuis longtemps, et demain ils vont annoncer des revenus qui vont dépasser les 700 millions d'euros, qui vont encore une fois montrer que c'est des revenus qui sont en hausse par rapport à l'année dernière. C'est des revenus qui en font, comme je l'ai dit tout à l'heure, le club le plus riche du monde, ou en tout cas l'un des clubs les plus riches du monde.
Ça c'est quand même un paradoxe assez incroyable, ça.
C'est incroyable, mais comment ce club continue à gagner autant d'argent en étant aussi nul sur le terrain ?
C'est quoi, c'est toujours le marché asiatique ?
Oui, mais même pas que le marché asiatique, Daniel, c'est partout. Les sponsors font la queue, c'est des sponsors.
Les sponsors continuent à faire la queue, ne sont pas troublés par les résultats, par le recul sur les années récentes. C'est quand même. Je continue à dire que c'est.
En termes d'audience, même en Angleterre ici, c'est le club qui est le plus regardé. Beaucoup plus que Manchester City, avec Liverpool, c'est les deux clubs les plus regardés.
Ouais, c'est deux clubs historiques, c'est le derby de l'Angleterre, c'est ça. Hein.
Voilà, c'est ça. Et mais c'est de là que remonte en fait tout ce pouvoir incroyable qu'ils ont financièrement d'attirer tous ces sponsors, alors qu'ils mettent plus un pied devant l'autre, ou alors quand ils ont gagné des titres avec Mourinho, bah c'était l'arbre qui cachait la forêt finalement.
Allez, on conclut là-dessus.
Mais ça reste incroyable.
Voilà, et puis c'est bien que tu rappelles que le vrai derby c'est ça et pas les 1000 matchs d'Arsenal dans l'année parce qu'il y a des Français, donc faut les suivre, tu vois, parce que c'est devenu un peu le truc, voilà. Football irlandais nous écrit, il lui dit les gars, vous en parlez jamais, c'est vrai. Le champion irlandais a décalé ce soir. Dundalk a été sacré champion d'Irlande. Ben voilà, je l'aurais signalé. Dans quelques instants, le reste de l'actu. On va reparler de Thuram, notamment à Mönchengladbach, de Dortmund, mais aussi du foot italien. Il y a des questions sur Pastore pour Simone et puis Ribéry quand même. Faut que Simone nous raconte, sans oublier l'Espagne, l'Angleterre et tout le reste. Plus Julien Cazard qui arrive. À tout de suite dans l'after.
RMC. On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts, c'est qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero. Ça suffit. OK? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Super Brébois.
La dernière heure de l'after jusqu'à minuit avec les drôles de l'âme, bien sûr, Florent Gautreau, Damien Périnel, Daniel Riolo et Julien Cazard. Salut Julien.
Bonsoir à tous. Ça va, et Julien? À toutes, parce qu'il paraît qu'il y a des filles aussi qui écoutent.
Eh oui,
il y en a. Salut. Peu, mais il y en a.
Il y a le drôle de l'âme déjà. Voilà.
Ah oui. Ah bah d'accord, c'est oui, nous. Ça promet.
Eh oui. Alors, tout à l'heure, on va reparler un peu de Ligue 1. Tout à l'heure, Julien, lui, veut nous parler, veut nous expliquer, avec évidemment ses mots à lui, que le suspense reste total, oui, en Ligue 1. Vous allez voir, ce sera surprenant. Ce
c'est, alors, je suis pas sûr de convaincre.
N'oubliez pas le quiz.
C'est une hypothèse.
C'est une hypothèse.
Je vais mettre, voilà.
Très bien. Bon, mais on donnera sa chance à ton hypothèse. N'oubliez pas le quiz tout à l'heure, 32-16 pour participer. Bien sûr. Le jeu FIFA qu'on peut encore gagner, FIFA 20, bien sûr. Daniel ne l'a pas encore piqué.
Avec Eden Hazard en couverture. De la boîte très bon choix.
Non, je l'aurais déjà piqué depuis longtemps.
Et il ne va pas piquer la jaquette.
Tu ne crois pas que le gars qui gère les jeux ici, il te connaît? Il m'a filé la boîte vide. Il a dit, on ne sait jamais, il y a Daniel.
Ça fait 20 ans qu'à la télé, il n'y a pas de DVD, il n'y a pas de disque et il n'y a pas de jeu dans les boîtiers.
Je ne le savais pas.
Voilà,
c'est pas que je fais la télé, moi.
Parce qu'il y a toujours eu des mecs comme toi dans toutes les émissions.
Donc, allez. Dans la veste de Daniel, il n'y a pas de.
Vous savez, le truc le plus génial que j'ai vu à la télé, vous savez, en Espagne, ils offrent souvent des jambons.
Ah bon?
C'est dans les jetés.
Ouais, normal, classique, ouais.
Non, mais en Espagne, tu sais, t'as un jambon courant, et tout, ouais. Et en fait, c'est en plastique.
Et c'est une blague.
Mais je vous jure, et comme les DVD, il n'y a rien dans les.
Tu vois,
il y a
non, mais celui là, qui présent.
Ah, celui qui présent, c'est
en plastique, voyons.
Et ça se voit pas, personne ne le voit.
Sur le plateau, non, mais ce qui est terrible, c'est qu'à la télé, quand tu vas à la télé, t'as l'impression que c'est un vrai jambon. Et en fait, c'est un truc en plastique.
3 heures au milieu de la table, jambon, je peux dire qu'à un moment.
Au bout d'un moment, ça se voit. En fait, le chèque juste pris à l'époque, il était grand quand même.
Mais tu sais qu'il est valable, hein.
Ah, le grand comme ça.
Ouais. Tu vas à la banque avec le chèque du juste prix.
Les, oui, en monsieur, fait, c'est tu peux faire sur papier libre de la taille que tu veux s'il y a toutes les mentions légales. Et voilà, vous apprenez quelque chose. C'est, vous n'êtes pas venu pour rien.
Là. Merci Julien, heureusement
que tu peux faire. Tu peux déposer un chèque du juste prix en carton.
Simonet, question sur le derby du Nord. Florian qui nous dit, est-ce que Milan va encore passer une année galère après ce derby raté? Ça te permettra de parler aussi de l'Inter.
Il n'y a rien de bon dans ce qu'on a vu pour l'instant à Milan depuis le début de la saison. 6 points, oui, face à Brescia Verona, on a donc de promu avec un jeu qui on n'arrive pas à voir. Marco Giampaolo, l'entraîneur, était arrivé pour être un peu l'homme du beau jeu, était une des entraîneurs plus aimés même par Arrigo Sacchi, qui est toujours quelqu'un qui est très écouté au Milan et en toute l'Italie. Pour l'instant, on voit rien. Au club, j'ai plusieurs retours de gens qui sont pas très contents parce qu'il fait pas jouer les nouveaux joueurs. Raphaël Léa a été titulaire pour la première fois dans les derbies. Il a été plutôt pas mal. Il a préféré Bilia Bennacer, qui c'est un peu comme continuer à utiliser ton vieil Fiat Uno pour faire honneur à Daniel Riolo quand tu es en Ferrari. Et donc, j'ai l'impression que... Non, mais entre les deux, la vitesse, c'est la même. Hein.
Bah, Daniel Minus, vélo Ferrari, à Paris. Daniel, c'est Anne Hidalgo vélo.
Non, Daniel, il est trottinette électrique.
En parlant de ça, hier, très intéressante journée sans voiture, qui fait que si tu devais sortir de Paris, pour rentrer chez toi, il fallait présenter les papiers. Voilà. La mairie de Paris, c'est ça. Pour rentrer chez toi, il fallait présenter les papiers.
Ah non, mais j'ai pire.
Il fallait prouver que tu habitais le quartier. C'est absolument délirant. Mais on est dans le délire le plus complet.
Non, mais, je savais que j'allais faire ça. Et c'est pour ça que moi, je vais faire comme Daniel, je vais voter Cédric Villani. Et je trouve que c'est un très bon choix, Daniel.
Ah bah, de toute façon, tout, mais pas elle.
Ah bah,
quoi qu'il en soit, même si ça doit être.
Ça sonne italien déjà.
Même si ça doit être lui et sa broche.
Il danse bien.
Mais non,
il a du rythme, hein, c'est vrai.
Dans tes papiers pour rentrer chez toi. Non, mais j'habite là, vos papiers, monsieur. Mais non, mais je ne sais pas si. Voilà.
Mais voilà, tu vis ce que vivent les jeunes de banlieue.
Il faut prouver que.
C'est la première fois que Daniel s'est fait arrêter. arrêter
ces papiers. Tu fais pareil, tu fais des barrages. Il y avait des barrages. Il y avait des barrages filtrants.
Comme le 25 août 40.
C'est délirant.
Donc le concept des papiers, c'est que c'est pour prouver ton identité, en fait. T'as compris?
Non, là, c'est pas l'identité, c'est que tu habites.
Attends, est-ce qu'ils ont regardé dans ton coffre?
Parce que toi, tu trouves au lieu de la plaque, tu passes à dingue.
Hein, moi, hier, moi, j'ai une voiture électrique, j'ai pas pu rentrer dans Paris, alors que toi, avec ton diesel, ton 4x4,
j'ai pas de diesel.
Tu peux faire 4 fois le tour de Paris, un intramuros.
N'importe quoi, j'ai pas de diesel. Je suis rentré chez moi.
Alors, il se trouve que moi, j'ai un diesel et j'ai fait effectivement 3 fois le tour de Paris, intramuros, et que je m'en fous, en plus. Voilà.
Bon, revenons au derby milanais.
Pour
c'est dur, je comprends.
C'est dur de dire.
Non, mais la différence entre les deux équipes, même entre les deux clubs, aujourd'hui, c'est deux années des projets, des distances. L'Inter, aujourd'hui, c'est une équipe qui peut se permettre d'acheter des grands joueurs ou des très bons joueurs, peut se permettre d'avoir un coach de top niveau. Milan est encore à la recherche de sa position. Ils ont raté les dernières mercato, ils ont raté les derniers entraîneurs. Et c'était normal pour moi qu'ils ratent même une derby où il arrivait sans une base solide, et l'Inter surnageait sur un enthousiasme du début de la saison. Après, il faut voir comment on peut dire, l'Inter vient de se jeter, c'est comme dans la course de natation, là, désolé, j'ai pas les mots, mais là tu attends de voir quand il va sortir là, pour la première brassée, là sur le premier élan. Bon, elle est en tête, il s'est jeté très bien. Là, il faut voir si elle arrive à retrouver son rythme.
Tu veux dire, elle vient de plonger. C'est la coulée.
Voilà, elle vient de plonger. Il a plongé très bien, il a pris un avantage. Il faut voir si elle arrive avec le brassé à trouver son rythme. Moi, je vois un Inter très très bon, avec un effectif plus large, des joueurs de qualité. On a vu un Sensi un peu moins bon, mais on a trouvé un Barrel extraordinaire, une Brozovic très bon. Godin arrive depuis quelques semaines et s'intègre déjà dans cette défense à 3. 11 titulaires de l'Inter sont d'excellente qualité. Les remplaçants sont ceux qui étaient titulaires l'année dernière, donc quand même la qualité n'est pas moche. Après, les tête à tête avec la Juve sur la saison, c'est encore long de dire s'ils seront capables. Mais attention, cette semaine, il y a match. L'Inter joue face à la Lazio. Si l'Inter arrive à battre la Lazio, montre encore d'être plus fort d'une équipe qui était concurrente directe pour la Ligue des Champions l'année dernière, et donc de pouvoir viser un peu plus haut. Et demain, Brescia Juve, premier match de Balotelli, et la Juve sans Cristiano Ronaldo blessé.
Balotelli commence sa saison fin septembre, lui.
Ronaldo blessé? Excuse-moi, c'est vrai, il faut que j'entends ça en 15 ans, je crois.
Ou au repos, on a aujourd'hui Maurizio Sarri, il a fait une petite gêne musculaire, mais peut-être que ça tombait bien avoir un gêne musculaire, parce que comme ça, il n'a pas pu aller à Milan avoir Messi et gagner son prix.
Et tu nous as pas dit si Rabiot avait été bon, en fait.
Rabiot a été très sage 90 minutes sur le banc des touches. Mais
non, mais sur le banc, sur le banc, il était bon sur le banc. C'est bien comporté. Quand les autres sont venus s'asseoir, il a bien serré la main, tout ça.
Non, mais je crois qu'il faisait plus de 20 degrés, il a pu aller s'échauffer.
C'est même pas levé pour s'échauffer.
S'il avait fait froid, on peut savoir s'il prend bien les couvertures, s'il tient bien la couverture pour les autres.
Il y a tir à lui en général.
Voilà. Il a même pas levé pour échauffer parce que, avec ça, les tournois verts est tellement réduit que seulement les titulaires s'élèvent pour.
Alors, est-ce que en Italie, ils savent que. Il y a la visite de maman qui arrive dans
ça va tomber là.
Dans quelques jours là, maintenant il faut se préparer.
Je suis pas sûr qu'elle ose là-bas.
Elle ose tout, c'est à ça qu'on la reconnaît.
Alors, moi je Alors, j'ai aucun retour du côté Juve sur le fait que il y a des soucis ou que
non, parce que Ramsey est en courant jouer. Ça aurait pu le concerner aussi le turnover. Ramsey, il a joué.
Il joue quand il y a un problème.
Il y a un problème.
Je voulais jouer. Et il a marqué. Bettencourt a joué.
Mais Bettencourt a été
pour ça, j'attends.
Pour lui. Donc, je suis convaincu.
Bettencourt, il est un peu otage des décisions du coach.
Joli.
Je l'attendais. Il y a un truc qui.
Joli.
C'était dans l'air, mais on savait pas quoi.
Ça devait tomber.
Il était pile, il pas pu sur Ramsey. Là.
Ça me permet d'enchaîner avec cette question pour Polo, qui n'est pas une question, mais plutôt, mon petit Polo, une petite pique.
Il était à l'expo tout en camion.
Une petite pique de Manu, qui te dit Polo, peut-il faire son mea culpa sur Marcus Thuram?
Non. je persiste et signe que Marcus Thuram n'est pas un joueur de football, c'est une présence physique. Et évidemment, il m'a
fait mentir. Très intéressant cette remarque, j'aime beaucoup.
Et parce que, en fait, évidemment, c'est un très beau bébé, 1m92, 90 kilos. Il était titulaire depuis le début de la saison. Il y avait un petit buzz autour de lui parce qu'il marque de la tête un très beau but d'ailleurs en Coupe d'Allemagne. Donc, on attendait la suite, etc. Et ses prestations ont été très, très moyennes, pour ne pas dire catastrophiques. Il y a eu ce turnover, évidemment, suite à la fabuleuse performance de Mönchengladbach en Coupe d'Europe ce jeudi. Et évidemment, il se retrouve. Et donc, Mönchengladbach, ils ont encore beaucoup de soucis dans le jeu. Et à 1-0, le coach Marco Rose décide de faire rentrer Marcus Thuram. Alors moi j'ai l'habitude maintenant de le dire en allemand, Marcus. Et évidemment, durant la demi-heure, il marque deux buts. Et donc il devient le héros du match. Et donc il m'a complètement fait mentir, mais je reste extrêmement dubitatif sur ses qualités footballistiques. Je l'excuse un petit peu parce qu'il a 21 ans, on va le faire évoluer. Mais je rappelle qu'il y a une Coupe du Monde de rugby et s'il a envie de faire des transformations à 3 points, il peut le faire.
Très bon polo. Tu vois, ça, c'est mon polo que j'aime bien. C'est comme c'est la Bundesliga, il glisse ce petit, on va le faire évoluer.
Alors, la transformation, c'est pas à 3 points. Et puis, en général, c'est un geste très technique pour le coup. Alors, il peut faire des plaquages éventuellement.
Éventuellement. Sinon, si vous pouviez me laisser 30 secondes pour Marco Rose quand même, ça serait
bien sûr.
Sympathique. Si je peux, Gilbert,
bien sûr,
tu peux.
Non, t'écoutes,
ouais, parce que vous savez, le dimanche, donc, il y a eu une nouvelle déception du part de Borussia Dortmund qui a à nouveau largement dominé la rencontre contre la Eintracht Francfort qui lui aussi a beaucoup de soucis en ce moment. Francfort égalise à la 88e minute par un but contre son camp de l'Ainé. Et puis Marco Reus, évidemment, en tant que capitaine, répond aux journalistes de la Sky. Et depuis quelques semaines, si tu veux, lorsqu'on voit les fluctuations des performances du Borussia Dortmund, donc évidemment, l'énorme surprise, c'est la défaite à l'Union de Berlin, mais c'est aussi le 0-0 contre le Barça ou au niveau des occasions quand même, heureusement qu'il y a eu Ter Stegen en face, etc. Et là il y a ce 2-2. Et donc depuis quelques semaines dans les médias allemands, eh bien, on se dit que le Borussia Dortmund, ils se disent ben, ils sont un peu tendres, ils n'ont pas l'instinct de tueur, et on parle de mentalité. Et Marco Reus a été d'une vulgarité sans nom, donc je vais essayer de traduire, mais d'une façon, il dit en gros, vous me les brisez parce que vous me parlez de votre mentalité de M. Parce que vous parlez que de ce mot-là, mais ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on n'est pas assez concentré sur certaines phases de jeu, etc. Mais lorsqu'on voit l'ensemble de la discussion, il met un peu les points sur les i par rapport aux journalistes. Il n'empêche que, encore une fois, Dortmund a perdu 2 points par rapport à la prestation qu'ils ont livrée, notamment en première mi-temps contre Francfort. Et ben, ils sont déjà à 3 points de Leipzig. Ils ont 2 points de retard. Ils ont 1 point de retard, pardon, excusez-moi, sur le Bayern Munich. Donc,
c'est pas encore panique à bord. Trois points de Leipzig, panique, mais si tu veux, Bayern,
ce qui est aussi, c'est Lucien Favre qui lui se dit, ah, mais ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé au mois de février l'année dernière. Donc, un peu tous ces, si tu veux, quand tu vois cette équipe de Dortmund, très très joueuse, peut-être même trop joueuse, tu te dis qu'elle peut y arriver, elle a tout l'effectif pour ça, et il y a toujours quelque chose qui va pas, et on a l'impression que c'est un peu des gamins encore qui sont pas complètement mûrs. Or, il y a des Mats Hummels, il y a des Marco Reus, il y a des joueurs qui sont trentenaires comme Witzel, le Belge, que je trouve assez exceptionnel et qui, de mon point de vue simple, n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir.
Ça, je suis bien d'accord. Bah, en même temps, il a décidé, il a fait des choix.
Mais c'est juste que voilà, quand je vois ce joueur.
Ah non, mais c'est un joueur extraordinaire, ouais.
Voilà, donc c'est un petit peu embêtant parce qu'on a vraiment un trio là qui est en train peut-être se détacher dans quelques semaines, qui va être Dortmund, Bayern et Leipzig. Et à la fin, ça risque encore une fois d'être le Bayern qui va gagner. Et pourtant, tu te dis, quand tu vois les investissements qu'ont fait Dortmund, quand tu vois la performance, notamment en deuxième mi-temps, qu'ils ont fait contre le Barça au Iduna Park, lorsque tu vois Leipzig qui a un banc, etc., tu te dis que tu peux avoir une saison assez extraordinaire et il faudrait pas perdre des points, on va dire, bêtement, quoi.
On enchaîne.
J'avais une question, moi, juste très courte. Mon petit gazon, Paulo Breitner, l'absence d'Alaba, ça, c'est pour longtemps ou pas?
Alors, il y en a pour 3 semaines au minimum. Okay, en fait, ça, Lucas Hernandez est décalé pour le moment sur le côté gauche, ce qui permet encore une fois de me faire mentir, parce que Pavard a un temps de jeu assez exceptionnel par rapport à ce que j'avais prévu. Mais n'oublions pas que le banc du Bayern est relativement faible en quantité, je veux dire, pas en qualité. Et donc, quand il vous manque Alaba et Goretzka, ben, Niko Kovac peut se permettre que de faire changer 2 joueurs, et c'est un petit peu ce qui permet, en fait, à Pavard d'être titulaire. Oublions pas aussi que Kovac remet Kimmich en position de milieu défensif. Je ne serais pas surpris que lors du prochain mercato hivernal, le Bayern fasse quelque chose à ce niveau-là.
C'est-à-dire ?
Ben, de trouver un milieu récupérateur.
Il se prend pas un peu pour Thomas Tuchel, ton Kovac, à mettre un défenseur.
Kovac, tu sais, il a vécu une saison assez catastrophique l'année dernière, vu ce qu'il s'est pris dans la tête via notamment la direction du Bayern et en l'occurrence Karl-Heinz Rummenigge. On sait très bien qu'il est défendu simplement par Uli Hoeneß, qui au passage, j'ouvre une parenthèse, a fait une fabuleuse sortie médiatique direction Ter Stegen, pas complètement fausse d'ailleurs.
Quoi, mais il a dit quoi,
la parenthèse. La, ce qui est intéressant,
il a dit quoi, on sait pas ce qu'il a dit nous.
Ah ben, il a dit très clairement que Ter Stegen n'avait strictement pas à s'exprimer et qu'il n'avait aucune prérogative pour s'exprimer parce qu'il parlait comme s'il avait été 17 fois champion du monde, etc. Donc c'est vrai que le palmarès de Ter Stegen, déjà par rapport à Neuer, c'est pas grand-chose, mais par rapport à Ulyanes, c'est encore rien du tout. Donc ça fait partie de cette polémique, c'est vachement intéressant parce que
bon, en fait,
qu'est-ce qui se passe en Allemagne, dans l'ouest de l'Allemagne, vous avez des médias qui sont pro Ter Stegen, comme par hasard c'est le Borussia Mönchengladbach, et vous avez les médias du sud de l'Allemagne, donc la Bavière, qui sont du côté justement du Bayern Munich et de Manuel Neuer. Donc c'est une petite guerre en fait en Allemagne, en savoir si Ter Stegen doit prendre la place de Neuer ou pas. Ce qui est sûr, c'est que ça pollue quand même pas mal enfin, en tout cas ça prend beaucoup de place dans les médias allemands, mais c'est peut-être aussi un problème de riche, hein.
Allez, dernière info importante en Angleterre, en Italie, en Espagne, qu'est-ce que tu veux encore nous dire d'important, Julien, avant qu'on te quitte?
Juste la victoire de Liverpool, enfin pas juste, mais la victoire de Liverpool à Chelsea dans le gros choc de cette sixième journée. 15e victoire de suite pour Liverpool si on compte la fin de saison dernière. 2 saisons d'affilée avec 6 premières victoires lors des 6 premiers matchs de championnat, ce que personne n'avait jamais fait avant. Et un but magnifique d'N'Golo Kanté pour son retour comme titulaire avec Chelsea, qui a encore éclaboussé de son talent cette rencontre malgré la défaite des Blues. Mais Liverpool qui fait vraiment très forte impression et encore une fois donc qui rentre dans les livres d'histoire du football anglais.
Eh oui, et ça continue. Une dernière info italienne, Simone?
Pas seulement pour vous dire que si vous n'avez pas vu les premiers buts de Ribéry, de Franck Ribéry, c'est extraordinaire. C'est très beau quand même, sur un long ballon de Chiesa.
On l'appelle Franck là-bas parce que tu as dit Franck, de Franck Ribéry.
Franck, bah tu sais, c'est une équipe américaine, la Fiorentina, donc il faut s'adapter à l'italo-américaine Rocco Commisso. Donc la Fiorentina qui marque 2 buts, mais s'est fait récupérer par l'Atalanta. La petite info, c'est que Montella, qui est arrivé en février, est encore sans victoire depuis son arrivée en championnat. La dernière victoire de la Fiorentina, c'est le 17 février, mais c'était Stefano Pioli sur le banc de touche.
À date, hein.
Là, c'est flippant.
Et j'ai lu une interview de ton ami Rocco, là. C'est intéressant ce qu'il disait, parce que visiblement, il est très très riche.
Le propriétaire de la Fiorentina.
De milliardaire.
Je pensais l'autre Rocco.
Pas celui qui sonne à la porte.
Ah non, pas Rocco, ton idole. Je vais pas dire Rocco, ton idole, qui est devenu ton ami maintenant.
Je suis milliardaire, Rocco.
Hein? Ah, voyez-moi les gens.
Coucou. Il y a quelqu'un à la porte et je vais voir.
Il disait que il avait vraiment envie de beaucoup dépenser pour se faire une grosse équipe, mais ce qui le bloquait était le fair play financier, que si ça tenait qu'à lui, il aurait mis les millions sur la table pour faire un très très gros recrutement cet été.
Oui, aujourd'hui c'est aussi simple d'utiliser les fair play financiers pour dire j'aurais voulu dépenser plus, mais j'ai pas pu.
Penses que c'était de la com quand il a dit ça? Parce que visiblement il avait envie d'envoyer l'oseille, hein.
Il est arrivé à la fin de Mercato qui l'Udinese a négocié avec l'Udinese pour De Paul et avec Sassuolo pour Berardi. Il n'est pas arrivé à offrir l'argent qu'il fallait, c'est-à-dire 30 millions sur un cas et 35-40 sur l'autre. C'est pas l'argent qui te fait sortir ou te mettre dans les soucis avec le fair play financier, surtout quand la Fiorentina n'est pas qualifiée en Coupe UEFA. Donc,
bah oui, ils sont pas comme ça, ils s'en foutent.
Il pense qu'il aurait été américain? En Italie, ouais.
Donc il a pipoté alors, Rocco.
Ouais, moi je trouve que là, il a un peu pipoté.
Bon, d'accord.
Tranquille. Il va dépenser, surtout si les choses commencent à aller bien. Petite chose pour défendre la Fiorentina, sur les 4 premières journées, il a joué quand même la Juve, Naples et l'Atalanta, c'est-à-dire premier, deuxième et troisième de la saison dernière.
Dernière info italienne, espagnole, pardon, Fred.
Eh ben moi, je vais faire confiance à une question très intéressante qui m'était posée par un auditeur sur Instagram et qui me parle de la présence des clubs basques en Liga. C'est vrai qu'il y en a 5 clubs basques ou associés, parce que Osasuna, c'est Pamplune, et pour beaucoup, ça fait partie de l'ambiance basque. Et il y a surtout le leader, à la différence de but, c'est l'Athletic Club de Bilbao. Et le quatrième, c'est la Real Sociedad. Pourquoi une telle présence des clubs basques? Ben, je vais dire, c'est quelque chose de tout à fait historique. Le moteur du football espagnol de tous les temps a été le football basque. Et j'ai même lu l'autre jour une statistique intéressante qui disait que si on prend par communauté, par région, le Pays basque espagnol est celui qui a fourni le plus d'internationaux à la sélection espagnole. Donc voilà, beaucoup de Basques en Liga, c'est tout à fait logique. Ce n'est pas nouveau.
C'est un peu comme les Bretons
historique.
Chez nous.
Ah ben c'est comme ça, c'est vrai.
Oui, il y a toujours beaucoup de clubs bretons.
Oui, mais je sais pas si les Espagne, Bretons ont donné autant de joueurs que les Basques ont donné au football espagnol. Enfin, des joueurs, il y en a eu, mais des aussi bons. Je suis pas sûr.
En plus, avec
les Vincent Grand
et de grands gardiens aussi.
Marcel Aubourg, Anthony Le Talec. Il y a du monde. Arnaud Leland. Arnaud Leland.
Le gardien, c'est assez phénoménal ce que fait le pays.
Johan Gourcuff.
Et ah, Julien, on a parlé de l'Angleterre, là, je trouve.
Et j'en passe, c'est les meilleurs.
Des choses à lui demander.
Yvon Leroux.
Vas-y, Daniel, vas-y.
Allez, une dernière question à Julien, si tu veux, mais il a parlé de Liverpool, il a parlé de Manchester United, il a parlé de City.
Qui a joué au Liverpool hier?
Chelsea, mais il en a parlé,
non? Chelsea. J'ai parlé de Kanté, juste, mais...
Non, je voulais plus globalement autour de...
Allez, pour conclure.
Qu'est-ce qui se dit? J'ai vraiment l'impression que ce club a complètement reculé dans la hiérarchie, que limite on n'attend presque plus rien de cette équipe. Je les ai vus encore hier. Alors, leur deuxième mi-temps est nettement meilleur que la première, mais je trouve qu'on a même du mal à trouver des bons joueurs dans cette équipe.
Des bons joueurs, tu veux dire, dans l'équipe titulaire de...
En fait, c'est pas ça. C'est que comme ils sont jeunes, je sais plus comment la situer dans les prétendants et prétendants à quoi en Angleterre. Qu'est-ce qu'il faut en attendre, en fait, de cette équipe?
Donc l'objectif, c'est quatrième place, troisième avec un peu de réussite, quatrième c'est le minimum. Il n'y a pas de pression sur Lampard parce qu'il sait qu'il a au moins 2 années pour travailler, en notamment lançant les jeunes. Ça fait partie du projet, ça fait partie de ce qu'on lui a demandé, ça fait aussi partie de ce que lui voulait en arrivant au club. Après, il y a eu une période dans la saison, même s'il n'y a par exemple toujours pas eu de succès à domicile. Hein. En championnat, ils n'ont pas gagné encore à domicile à Stamford Bridge. Et en Ligue des Champions, ils ont perdu contre Valence la semaine dernière, à domicile aussi. Mais c'est vrai que on s'est quand même posé la question, notamment sur les très bonnes performances pour l'instant de joueurs comme Tammy Abraham, de Mason Mount et de Tomori, le défenseur central, si l'interdiction de recruter n'avait pas été une bonne chose pour Chelsea, parce que ça avait permis de lancer ces jeunes joueurs-là qui étaient très bons chez les jeunes, avec un centre de formation qui est très performant à Chelsea, mais qui avait un petit peu cet horizon bouché par les autres joueurs qui étaient déjà là, que Chelsea allait chercher.
Donc, tu veux dire que ça peut être une année de transition un peu?
Exactement, où tu t'appuies sur les jeunes, ça veut pas forcément dire que tu vas gagner beaucoup de choses avec ces jeunes joueurs-là.
Non, mais ils sont pas mal, les jeunes, c'est vrai qu'ils sont parfois un peu tendres.
T'as du talent quand même. T'as du talent. Après, c'est vrai que c'est compliqué parfois parce que, déjà parce que t'es très loin de Liverpool et de Manchester City. Parce que dans le petit championnat à 4 entre United, Chelsea, Tottenham et Arsenal, je suis pas persuadé que Chelsea soit la meilleure équipe avec le meilleur entraîneur non plus. Mais c'est très possible quand même qu'ils finissent 3e ou 4e.
Ouais. Bon.
Merci messieurs!
Nada.
Bonne soirée à tous. Et à très vite, bien sûr. On vous retrouve évidemment dans l'after très régulièrement, notamment avec vos matchs de championnat de la semaine. Dans quelques instants, Julien Cazard, on va reparler Ligue 1, un mot de Marseille. On va surtout parler également un peu de Nice, les dernières infos du jour et le quiz. Bon. À suivre.
RMC, 21h minuit.
L'after foot.
This one shouldn't take long. Of course, if it had a cover, I might not be bothered. Can't see what's under there. And then they'd have chained the back wheel. It would have taken me much longer, especially if the chain's off the ground. Makes it harder to cut. This one doesn't even have a lock on the front. So, in the time I've been talking to you, I've nicked it.
Over 9,000 scooters and motorbikes were stolen in London last year. Lock your bike, chain the rear wheel, and cover it to make it harder to steal. Lock, chain, cover. The Met Police.